Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Victoire, elles y sont enfin parvenues. Que de chemin parcouru, de batailles, de larmes, de souffrances jusqu'à la joie immense du combat remporté. Il y a bien quelques rabat-joie ici ou là, des éternels insatisfaits, qu'ils soient pour ou contre d'ailleurs. Il faut bien grincheux pour que les sept nains soient au complet. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le 4 mars 2024 restera dans l'histoire comme le jour où un État a, pour la première fois, gravé dans le marbre de sa constitution et de manière explicite, la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ce droit siège désormais aux côtés des plus grands, comme ce très cher droit de grève, le droit de disposer d'un enseignement public gratuit et laïque, ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un symbole fort de lui donner la même importance et, d'une certaine manière, le même prestige. Aussi, bien qu'on ne soit pas aux États-Unis, presque un côté sacré en somme. Et quelle entrée fracassante au Panthéon des grandes idées! 780 votes sur les 925 de l'ensemble du Parlement. Très très belle performance. On ne parle pas d'un petit texte griffonné en vitesse sur un coin de table en marge d'un putsch miteux de généraux à Alger en 1858. Non. Ce droit est entré, lui, par la grande porte. Il est vrai que la Constitution peut toujours être modifiée. C'est d'ailleurs une modification de la Constitution qui a permis à l'IVG d'y entrer. Mais vous pouvez être sûr que nous veillerons à ce qu'il y reste. Car, comme tous les droits, il a une histoire, et celle-ci évolue. On retrouve des codes juridiques mentionnant l'avortement dès le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Ici, il est interdit, mais dans l'Égypte voisine, on y trouve des traces de prescriptions pour avorter. Déjà, cette pratique est encadrée, et déjà, elle divise. Le développement et la diffusion des trois grandes religions monothéistes vient ensuite trancher. Les interprètes de leurs textes sacrés sont clairs. L'avortement est interdit et sa pratique sanctionnée. Au XIXe et au XXe siècle, c'est désormais la morale bourgeoise qui remplace la morale religieuse. En France, il est ainsi condamné par le code pénal de 1791 ou encore par celui de 1810. Il faut attendre 1852 pour que soit au moins autorisé l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire que si la vie de la mère est en danger, il est réalisable comme un soin. Pour autant, en dehors de ce cas précis, il est, je cite, « un crime contre l'ordre des familles et de la moralité publique ». Ces lois se durcissent de plus en plus, augmentant au fur et à mesure les peines pour celles qui y ont recours et pour celles qui les pratiquent. Après la fin de la Grande Guerre, les politiques natalistes, en plus de pénaliser aussi la contraception, traquent les femmes. Ainsi, on passe de 123 femmes condamnées pour avortement en 1920 à 332 en 1930, à 3385 en 1943 dans une France de Vichy qui le punit désormais par la guillotine, et jusqu'à 5151 en 1946. En effet, bien qu'il soit interdit, ça ne l'empêche pas d'exister. L'avortement se fait toujours, mais dans l'ombre, dans la honte, avec les moyens dont les faiseuses d'anges disposent. Les méthodes sont déjà variées et transmise de génération en génération. Il peut se faire par ingestion de plantes aux effets abortifs ou par un acte mécanique. Au début du XXe siècle, on estime à 500 000 par an le nombre d'avortements réalisés clandestinement en France et 300 le nombre de femmes qui en décèdent. Rendez-vous compte, c'est près de 3% du nombre total de femmes en France à l'époque qui se fait chaque année avorter. Les conditions sanitaires sont aussi variées que la situation sociale de ces femmes. Du cabinet médical où un médecin conciliant le réalise dans les meilleures conditions disponibles, à la cuisine d'un taudis miteux. Il faut attendre les années 60 et 70 pour que les mobilisations des mouvements féministes à travers le monde et la situation sanitaire catastrophique poussent enfin les pouvoirs publics à réagir. En France, cela s'est traduit en 1967 par l'autorisation de la contraception, même si sa promotion est toujours interdite, et enfin en 1975 par la loi Veil qui dépénalise l'avortement. Rendons tout de même à César ce qui lui appartient, car tous les pays n'ont pas connu telle distorsion entre volonté populaire et cadre législatif. Ainsi, c'est en URSS que pour la première fois, l'avortement est autorisé dès 1920. En France, ce n'est tout de même pas fini, puisque de 1975 à 2024, ce ne sont pas moins de 14 mesures qui sont prises pour renforcer et faciliter l'accès à ce droit. Mais alors, à quoi cela sert-il de l'inscrire dans notre Constitution si en plus d'être largement soutenu dans la population, tous les gouvernements qui se sont succédés l'ont étendu? Déjà, son entrée dans notre temple républicain est un symbole concrètement utile. Lui donner de telles lettres de noblesse marque, je l'espère, la fin d'un sentiment qui perdure depuis qu'on légifère sur cette pratique, celui de la honte. Lorsqu'une femme doit prendre la décision d'avorter ou non, plusieurs raisons qui n'appartiennent qu'à elle devraient guider son choix. La raison peut être économique, sociale ou encore religieuse. Mais la honte ne devrait pas, ou en tout cas plus, en faire partie. Peut-on parler de liberté de choix si votre propre jugement est, en partie au moins, influencé par le jugement réel ou supposé des autres? Mesdames qui avez avorté, combien de fois vous êtes-vous justifié d'avoir fait ce choix, alors que parfois même personne ne vous le demandait? Combien de fois avez-vous craint le jugement d'un ami ou d'un parent? Et même si vous, précisément, n'avez pas eu à vous poser ce genre de questions, combien n'ont pas eu cette chance? Désormais, il n'est pas moins respectable d'avorter que de faire grève ou d'aller gratuitement à l'école publique. Et puis, d'autres menaces guettent, certaines de manière ostensible, d'autres tapis dans l'ombre. En effet, l'offensive réactionnaire mondiale ne vous a pas échappé. Si ce droit poursuit toujours son avancée, il y a des endroits où il recule, comme aux États-Unis ou en Hongrie. Et même en France d'ailleurs, où des centres IVG sont fréquemment victimes d'actions de militants anti-IVG. Il faut toujours être sur ses gardes. Et puis, il y a la question de son inégalité d'accès. Selon le planning familial, ce sont près de 130 centres IVG qui ont fermé leurs portes en 15 ans. En Bretagne, on recense 30 professionnels pratiquant l'IVG en Ille-et-Vilaine pour seulement 2 dans les Côtes d'Armor. Après tout, la morale réactionnaire se conjugue très bien avec les mesures d'austérité néolibérale. Dès lors, posons-nous la question. Si nous venons de sacrer la liberté d'avorter, quand en sera-t-il de même pour son égalité?
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.